Parce que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions sont pertinentes, au Café Service, vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Au Café Service, nous sommes à votre service. De lundi à vendredi, dès 9h, on est ici à ça.
En République démocratique du Congo, plusieurs ONG et autres structures publiques œuvrent dans le secteur de la lutte contre le VIH-Sida. La plupart d'entre elles s'occupent notamment de la prise en charge médicale des PVV, de la sensibilisation et du dépistage volontaire. Mais sur le terrain, seule une minorité des PVV ont accès au traitement antirétroviral et par ailleurs, beaucoup d'ONG n'ont pas accès au financement. Alors face à cette situation, quelles sont les stratégies mises en place par le PNMLS, le Programme National Multisectoriel de Lutte contre le VIH-Sida? Professeur Lévin Carpenda est notre invité encore une fois, bonjour.
Bonjour.
Oui, vous êtes coordonnateur national du Programme National Multisectoriel de Lutte contre le VIH-Sida. Alors face à tous ces problèmes, on parle beaucoup plus de, il y a des problèmes de la sensibilisation, le dépistage, le traitement antirétroviral et le financement. Alors par rapport à tous ces problèmes, quelle est la stratégie de votre organisation?
Merci à Radio Okapi pour nous avoir donné la possibilité de pouvoir donner quelques informations à notre population. D'entrée en matière, je voudrais qu'on précise d'abord les choses, dans ce sens que le PNMLS est en fait une institution de l'État, hein, et qui a comme charge la lutte contre le VIH-Sida. Et dans cette lutte, évidemment, on a besoin de tout le monde, hein, que ce soit le niveau communautaire, que ce soit les ONG, les confessions religieuses, le secteur privé et public. Mmh. Et donc, tous ces acteurs, on a besoin qu'ils interviennent selon leur niveau, selon leur capacité dans la lutte contre le VIH-Sida. Alors, comme vous l'avez dit, il n'y a pas que le financement, en fait, qui est, je sais que c'est le point d'achoppement, hein, il y a pas mal dans la population, mais la lutte contre le sida, c'est d'abord une organisation qui voudrait que les choses se passent selon les normes. Hein, les ONG sont en fait des structures par définition qui viennent appuyer l'État dans certaines activités de la population.
Oui.
Alors, pour qu'une ONG bénéficie des appuis, éventuellement des ressources qui pourraient être mobilisées par, au sein du PNMLS, d'abord, il faut que ce soit une véritable ONG reconnue officiellement. Hein, et donc, on peut identifier, notamment avec son siège, avec tout ce que cette ONG a fait avant de venir demander le financement. Cette ONG doit démontrer des compétences. Hein, il n'est pas question de venir, parce qu'il y a financement dans la lutte contre le sida, et changer la vocation de cette ONG. Hein, jusque-là, on s'occupait de forage de puits. Mais puisqu'il y a financement, à ce moment-là, on change, on devient ONG dans la lutte contre le VIH-Sida. Il faut faire montre de capacités de gestion transparente, hein, qu'on soit à même, quand on a besoin de le savoir, on dit voilà, telles ressources ont été mobilisées, ont été mises à disposition, et ces ressources ont une traçabilité. Donc on peut savoir que cet argent a été utilisé à cela et non pas à autre chose que la lutte contre le VIH-Sida. Il faut que l'ONG soit à même de produire un rapport d'activité. Hein, de telle façon qu'on voit dans quelle mesure cette ONG contribue réellement à la lutte contre le sida.
Oui. Alors, et professeur Tapend, dites-nous, quelle est la stratégie du PNMLS, d'abord par rapport à la sensibilisation sur le VIH-Sida?
Par rapport à la sensibilisation, ça veut dire que nous, on sélectionne les ONG qui ont la vocation de sensibilisation, de communication. Donc, il faut que les ONG nous disent qu'est-ce qu'ils ont comme stratégie pour pouvoir atteindre les masses les plus reculées, les masses ou les cibles qui sont visées par par leur ONG.
Mmh.
Et alors là-dedans, il y a plusieurs possibilités. Hein. Bon, je prends l'exemple Radio Okapi, utiliser sa radio, hein, comme outil de sensibilisation. Alors, il y a des stratégies qu'on appelle la formation de père éducateur. Donc, dans un secteur, vous avez des individus de la communauté qui sont formés, qui ont donc l'information correcte sur la lutte contre le sida, qui, par proximité, sur le lieu de travail, par exemple, vont permettre, n'est-ce pas, la transmission de l'information et permettre à d'autres personnes, oui, n'est-ce pas, de bénéficier de la sensibilisation.
Alors, si je comprends bien, le PNMLS ne fait pas lui-même la sensibilisation, mais finance les ONG qui font le travail sur le terrain.
Exact, exact. Le PNMLS n'est pas acteur du terrain. Hein, le PNMLS, c'est l'institution, comme j'ai dit tout à l'heure, qui fixe les normes, qui donne les orientations, hein, par rapport à la lutte contre le sida.
Alors, en ce qui concerne, par exemple, la prise en charge de malades, les antirétroviraux, quelle est votre stratégie?
C'est ça. En ce qui concerne la prise en charge des malades sous antirétroviraux, là, nous avons le travail organisé en secteur. Et ça, c'est le secteur santé qui est responsable, n'est-ce pas, de la distribution ou de la prise en charge des malades sous antirétroviraux. En ce qui concerne le PNMLS, sa responsabilité, c'est la mobilisation des ressources pour qu'on arrive à acquérir, hein, aider le secteur santé à acquérir les antirétroviraux, mais ce qui est possible, c'est de déterminer les normes, les conditions de suivi de tous les patients. Ça concerne le secteur santé.
Le secteur santé, c'est-à-dire le ministère de la Santé, vous voulez dire?
Non, c'est là où, effectivement, il y a quelques erreurs. C'est pour ça qu'il est important de pouvoir s'appuyer sur le plan stratégique national,
hein,
qui définit la notion de secteur. Le secteur santé est au-delà du ministère de la Santé. Hein, lorsque vous avez des entreprises, par exemple, n'est-ce pas, qui, dans leur entreprise, ils ont un dispensaire, ils ont un hôpital, hein, mais tout ça, c'est dans le secteur santé, n'est-ce pas, quoique gouverné ou géré par le secteur de l'entreprise.
Oui.
Donc, le secteur santé, c'est au-delà, hein, du ministère de la Santé, mais disons que le secteur santé a les maximums de compétences d'après nos informations, n'est-ce pas? Il peut aider les autres, hein, acteurs du secteur santé à contribuer à la bonne prise en charge des malades.
Nous avons en ligne Gabriel Betou de Kalima, il nous appelle de Kalima, c'est au Manema. Gabriel, bonjour.
Bonjour à Joe Capi, bonjour à tous les auditeurs de Kalima qui ont l'habitude de me suivre. J'ai une petite préoccupation tout simplement, c'est une doléance que je fais demander au gouvernement. J'ai bien suivi l'invité. Je suis ici au Maniema, ici sur Nord Kalima, nous avons des centres de santé ainsi que des grands hôpitaux. Mais nous ne parviendrons pas à bénéficier ces dons-là pour que nous puissions guérir ces gens-là qui ont des virus-là du VIH/SIDA. Pourquoi je demande à l'invité pour qu'il puisse donner cette doléance à notre gouvernement pour qu'il songe à nous?
Oui, Gabriel, c'est quoi le problème exactement? Il n'y a pas de médicaments qui sont disponibles?
Tout à fait, tout à fait.
Voilà, donc il y a un problème des antirétroviraux, si j'ai bien compris sa question, à Kalima ou Manema, professeur Levin.
Oui, bien, bonjour, monsieur Gabriel.
Bonjour.
Voilà, je pense que si vous êtes au Manema, nous avons dans votre chef-lieu de province une coordination provinciale. Le docteur Léon Gandou est le responsable de la coordination. Je pense qu'il faut vous adresser à lui. Et en plus, vous avez aussi le secteur santé qui est bien représenté sur place. Hein, poser la question, je pense qu'au lieu d'aller trop loin, on a fait en sorte que chaque province dispose d'une coordination provinciale, multisectorielle, et chaque province a aussi le PNLS, n'est-ce pas, du secteur santé. Et là, je pense que c'est peut-être un problème d'information, tout simplement.
Oui, professeur Levin, je me souviens, il y a quelques temps, il y a certaines ONG, des bailleurs de fonds qui finançaient les antirétroviraux, ont fermé les portes, ces bailleurs sont partis, et les gens se plaignaient, voilà, il y a carence, les antirétroviraux à gauche et à droite, mais par rapport à vos PNMLS, quelle est la stratégie pour qu'il y ait, pour une bonne fourniture de médicaments?
Oui, disons qu'effectivement, il y a ce problème qui va apparaître, qui risque d'apparaître très bientôt, hein, parce que vous voulez dire risque, parce que nous sommes occupés à essayer de trouver des issues par rapport à ça. Mais pour l'instant, je ne crois pas que ce problème existe réellement, hein. Nous avons déjà réceptionné les antirétroviraux, hein. Pour le moment, évidemment, le problème, c'est de pouvoir les acheminer. En tout cas, il y a un stock relativement suffisant pour qu'au moins dans les 6 mois, si pas plus, n'est-ce pas, tous les patients qui ont besoin de traitements puissent y accéder. Donc pour le moment, c'est un problème de déploiement de ces antirétroviraux. Sinon, ces antirétroviraux sont déjà dans la ville de Kinshasa. Il n'y a pas que les antirétroviraux, mais il y a aussi les réactifs, n'est-ce pas, pour le suivi des patients qui doivent être mis sous traitement.
Les questions de réaction, vous avez des questions par rapport à ce thème, comment bénéficier de l'appui du PNLS, appelez-nous au 081-890-63-94, notre invité là pour répondre à vos préoccupations.
La course relais de la formation sportive, c'est au Radio Capital. Nanambala, au démarrage, passe le relais à Denis Mekabe et Ngalula, qui fonce vers le micro et le passe à Kamis Mukongo Tchambouille. Il fonce et se trouve en tête à la sortie du virage où Christian Mulumbala attend. Les 100 derniers mètres sont parcourus sans encombre et. Victoire! Le 400 mètres relais de la formation sportive, c'est tous les dimanches, à partir de 15h, vers le Kinshasa.
Adolphe Kitenge nous appelle de Kindu, au Maniema, bonjour.
Bonjour, monsieur Jody, bonjour à tous les auditeurs, tous les auditeurs de la radio Capi.
Oui, Adolphe.
Ok. Ma préoccupation est la suivante.
Oui.
Ici, chez nous, il y a beaucoup de fautes. Ce ne sont pas tous les personnes qui vont avec prières qui sont bien servies. Maintenant, je pose à l'invité, comment on peut faire pour lutter contre cette malhonnêteté?
Oui, Adolphe, quel genre de malhonnêteté?
Il y a des fois de papa, ceux qui n'ont pas le VIH, reçoivent quand même l'aide des gens vivant avec le VIH.
Voilà, monsieur le professeur Lévin.
Oui, je n'ai pas très bien compris la question. Hein. Ça veut dire, il dit qu'il y a des personnes qui n'ont pas l'infection VIH qui bénéficient de traitement. C'est un peu illogique, quoi. Si on ne prendrait
Adolphe,
pas les
ARV. Est-ce qu'il est encore en ligne, Adolphe? Adolphe, qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Adolphe?
Comme
je
l'ai dit. Oui. Il y a maintenant, c'est comme si c'était un royaume, comme par exemple, moi j'ai fait la peine de mener. Donc, j'ai mes amis maintenant, moi je les appelle, je les trouve aussi un peu dans ces groupes-là, des personnes qui vont avec VIH, et ils commencent à reçoit des aides.
Quel type d'aide ces gens reçoivent?
De la nourriture et ainsi de suite.
Professeur Lévin.
Oui, je pense qu'il y a manifestement un mauvais entendement des choses. Hein, on n'entre pas dans le groupe des PVV parce qu'on veut y entrer. On se retrouve parmi les PVV parce qu'on est effectivement infecté, parce qu'on est malade. Hein, bon, alors à ce moment-là, je ne comprends pas très bien la préoccupation de notre ami Adolphe sur le sujet. Bon, peut-être que je crois que la préoccupation, si jamais.
Je pense qu'on peut peut-être dire de certaines ONG qui, par fraude, font entrer des amis, des cousins sur la liste, ils inscrivent leur nom sur la liste des gens malades alors que ces personnes ne le sont pas et puis ces personnes vont bénéficier des aides, de la nourriture et autres avantages à gauche à droite.
Ah, peut-être, oui, c'est pour lequel on parle. Bon, écoutez, là, je pense que c'est un problème d'organisation sur place. Hein, c'est effectivement des choses qu'il faut dénoncer pour permettre à ce que tout le monde réorganise le travail correctement, que les personnes qui ont besoin d'assistance puissent bénéficier, plutôt que pouvoir favoriser les fraudes. Hein, parce que, ça, c'est, comment dirais-je, le PNL met les normes, mais il y a aussi les équipes de suivi, les contrôles et tout ça quand on donne l'assistance. Hein, il faut veiller à ce que tout ça se passe correctement.
Voilà. Blaise Kampoumé nous appelle de Lubumbashi au Katanga. Bonjour.
Ok, bonjour, monsieur le journaliste. Et bonjour, notre invité et tous les auditeurs de Radio Capi. Ma préoccupation est la suivante. Quand on mène une action, on doit faire une évaluation. Le PMMLS, depuis qu'il avait commencé, on constate que le taux des PVV est en train toujours d'augmenter. Maintenant, pour cette fois-ci, est-ce que le Père Meles a déjà pensé à changer de stratégie, puisque on ne peut pas continuer toujours à faire ces actions et que peut-être que notre gouvernement qui est en partie est en train d'avoir toujours des dettes et que l'action qu'ils sont en train de mener, il n'a pas vraiment de résultats vraiment fameux.
Professeur Léon.
Oui, je pense que si notre ami Blaise suit l'information, il doit savoir que depuis une année, on a mis en place le plan stratégique national. N'est-ce pas, c'est un document qui est mis à la disposition de tout le monde, qui a commencé par l'analyse de la situation, hein, qui est passé par l'analyse de la réponse, hein, donc de tout ce qui s'est passé jusqu'à présent dans le pays, et on a arrêté des stratégies pour améliorer, n'est-ce pas, la lutte contre le VIH dans le pays.
Quelles sont ces stratégies en résumé? Professeur.
Oui, les stratégies, il y a plusieurs axes stratégiques. Il y a l'axe d'abord la prévention, comment améliorer les connaissances sur le VIH-SIDA, comment faire en sorte qu'il n'y ait pas de nouvelles infections. Après, vous avez l'axe prise en charge, donc s'occuper des personnes effectivement infectées avec les antirétroviraux, le suivi biologique. Évidemment, c'est dit rapidement. Le troisième axe, c'est celui de lutter contre la stigmatisation, essayer, dans la mesure du possible, de prendre en charge les enfants vulnérables et les orphelins, n'est-ce pas, pour qu'ils ne puissent pas, et aussi de verbe, disons, toutes les personnes vulnérables, pour qu'elles ne puissent pas être victimes de discrimination, qu'elles puissent donc jouir des droits humains. Et la quatrième stratégie, c'est celle d'appuyer la gestion du programme lui-même, et surtout le pays. Ce document est explicite, il est évidemment assez grand, mais il est mis à la disposition de tout le monde, donc on peut y accéder, c'est distribution gratuite en plus.
Blaise à Lumbashi, où est-ce qu'il peut trouver ce document?
Il peut se rendre au bureau de coordination provinciale de PNMLS à Lumbashi.
Mais il a dit quand même quelque chose d'important, malgré toutes ces sensibilisations, mais le taux d'infection augmente au jour le jour. Comment expliquez-vous ça?
Bien, je ne sais pas si Blaise suit toujours les informations, parce qu'il y a des enquêtes de surveillance épidémiologique qui sont faites chaque année.
Mmh.
S'il est à Lubumbashi, il doit savoir que les chiffres plutôt ont tendance à la baisse, quoique sur le plan statistique, ce n'est pas très important. Il y a déjà cinq ans environ, on était au-delà de 6%, mais maintenant on est à 4,6, si mes souvenirs sont bons, pour la ville de Lubumbashi. Donc, il devrait, à mon sens, suivre. Évidemment, quand on est dans le domaine scientifique, statistiquement, ce n'est pas significatif. Mais cela devrait au moins dire, signifier qu'il y a au moins une stabilisation.
Mais sur le plan national.
La même chose, sur le plan national, il y a une stabilisation de la situation en ce qui concerne l'épidémie.
Des questions, des réactions, des préoccupations, appelez-nous 081-896-3394 au Capri Service. Je reçois aujourd'hui le professeur Lévin Capen, coordonnateur national du PNMLS.
Vous écoutez Radio Capi? Merci. Je suis Karine Galimbaer, votre animatrice musicale. Je vous invite à passer un week-end souvenir avec moi, samedi dimanche, de 9h à 13h, heure de Kinshasa.
Lutte contre le VIH-SIDA, comment bénéficier de l'appui du PNMLS? Nous avons en ligne Djuma, il nous appelle depuis Bukavu, dans le Sud Kivu. Djuma, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Quelle est votre question?
Ma question est de savoir, c'était juste une proposition. Je suis d'une association de TVVH.
Oui.
Et juste dire à monsieur du PNMLS que le TVV, surtout, n'a pas besoin de ses formations, de former plutôt de la prise en charge médicale et psychologique. Parce que, je peux donner un exemple, ça fait plus longtemps qu'on ne fait plus le contrôle de CD4 ici chez nous. Alors c'est juste difficile de savoir comment on peut se traiter sans toutefois avoir notre CD4. C'est juste ça ma préoccupation.
Professeur Lula.
Il me semblait que vous étiez en train de faire plutôt une proposition.
Oui, c'est une proposition, oui, je l'ai dit.
Oui, disons que la numération de ces décades fait partie des éléments de suivi biologique, hein, lorsque les patients sont mis sous ARV. Et donc, ça fait partie de la stratégie dans son ensemble de prise en charge médicale. Donc, si à Bukavu, mais ça m'étonnerait, parce qu'il faudra absolument que mon collègue aussi de Kivu, le docteur Pépé, puisse nous rassurer là-dessus, mais je crois que on fait les CD4 à Bukavu.
Mais on le fait, mais sous paiement, je ne sais pas si c'est le nom des institutions, mais on avait fait une déclaration récemment à Radio Capi, rien n'a été fait jusqu'à présent, et on ne fait que continuer à plaider pour ce cas-là.
On vous demande de payer combien pour cet examen?
C'est 10 dollars.
C'est 10 dollars.
Oui.
Professeur Levas.
Ben, je pense que c'est vrai que l'effort est fait que le PDV soit pris complètement en charge, mais je crois que la déclaration a concerné essentiellement les ARV. Hein, les ARV sont distribués gratuitement. Mais maintenant, par rapport à l'ensemble des coûts, c'est vrai que le gouvernement fait un effort que pour que même le suivi biologique soit gratuit, mais je ne sais pas si dans la déclaration on avait dit que quand vous allez à l'hôpital, vous n'avez pas besoin de payer les autres soins médicaux, hein, ça je ne crois pas. Mais sinon, je pense que et même quand vous prenez au coût réel, hein, le CD4, ce n'est pas 10 dollars que vous devriez payer. Et donc c'est déjà un effort important si vous y accédez à ce prix-là. D'autant plus que les CD4 ne sont pas faits toutes les semaines ou tous les mois. Hein, si vous y allez tous les 3 mois, c'est possible, n'est-ce pas? C'est assez, même plus 6 mois, n'est-ce pas? Tous les 6 mois, 10 dollars tous les 6 mois. Je pense que vous devez être d'accord avec nous que le gouvernement fait quand même un effort considérable.
Voilà, merci. Je vous remercie. Bonne journée.
Merci M. Djuma de Bukavu. Alors, professeur Levin Kapend, donc revenons sur la stratégie du FNMLS. Donc, dans l'ensemble, qu'est-ce qu'il faut retenir, la nouvelle stratégie, qu'est-ce qu'elle prévoit dans l'ensemble?
Bon, il faut dire que dans les nouvelles orientations, hein, nous les tenons évidemment de l'autorité du pays, hein, ce qu'on appelle les initiatives Génération sans SIDA. Donc on voudrait que d'ici quelques années, hein, qu'on puisse ne pas avoir des enfants qui naissent avec l'infection à VIH, hein, que tout le monde
soit une génération sans SIDA.
Génération sans SIDA. C'est en fait la grande stratégie hein, pour le moment sur laquelle disons tout lequel tout est centré. Et vous comprendrez si vous avez le contenu de cette stratégie sans SIDA, elle comprend l'essentiel, n'est-ce pas, de ce qu'il faut pour la lutte contre le SIDA.
Il y a d'abord pas un simple slogan.
Pardon?
Ce n'est pas un simple slogan.
C'est pas un simple slogan parce que tout est mis en route pour ça. Vous allez tout à fait comprendre. En fait, on ne crée pas quelque chose de nouveau. On voudrait seulement amplifier hein, certaines stratégies, certaines activités qui jusque-là étaient encore en train de.
Quelles sont les grandes lignes de ces?
Oui, les grandes lignes, c'est d'abord les communications. Mmh. Hein, les grandes lignes, c'est aussi le dépistage, hein, intensifier le dépistage, ça je crois que tout le monde est au courant, c'est intensifier la stratégie de la prévention de la transmission de l'infection de la mère à l'enfant, c'est intensifier la distribution des antirétroviraux, c'est aussi promouvoir les droits de l'homme. Et donc, ce sont des stratégies qui sont déjà en cours, n'est-ce pas, en application dans notre pays. Mmh. Mais on voudrait insister là-dessus, n'est-ce pas, pour permettre à ce qu'on n'ait pas d'enfants qui naissent avec l'infection VIH, hein, que toutes les personnes ne meurent pas dans la mesure du possible de l'infection VIH, puisque le traitement est là, hein, et pour permettre à tout le monde à ce que ceux qui ont besoin d'être protégés, se sentent protégés pour pouvoir bénéficier des droits humains.
Alors j'imagine pour atteindre ce résultat, vous avez un budget conséquent.
Oui, disons qu'on est en train on a déjà travaillé sur ce budget. Tout est prêt dans le document qu'on appelle le DCRP, je crois que vous êtes au courant. N'est-ce pas, tout est intégré là-dedans. En fait, ce qu'il y a, c'est on est en train de déployer ça en termes de plan opérationnel. Ah, mais sinon, les lignes ont déjà été arrêtées là-dessus.
Guillaume, on va terminer avec la question de Guillaume Delicassi au Katanga. Bonjour.
Bonjour, Radio Kapi. Bonjour, Radio Invité.
Oui, Guillaume.
Oui, je voulais ma première préoccupation est de savoir pourquoi on ne dispose pas des antirétroviraux au niveau des pharmacies. Et ma deuxième préoccupation, c'est de savoir parce que par rapport à la journée mondiale de la santé qui s'est passée, on a tant parlé de résistance par rapport à certains médicaments. Et pourquoi le PNMLS n'associe pas les pharmaciens dans leurs actions? C'est ce que je voulais résoudre comme question.
Professeur Levin.
Merci à Guillaume. Je crois que là, vous me rejoignez parce que moi, je me suis toujours plaint hein, de pharmacies et de pharmaciens qui ont l'air de se mettre à l'écart par rapport à la lutte contre le sida. Il y a quelques collègues qui m'entendent. Hein, ils peuvent témoigner que je leur reproche toujours de ne pas participer comme ils se devaient à la lutte contre le VIH-Sida. Il y a effectivement le problème de résistance. Voilà la raison pour laquelle le pharmacien devait être plus présent pour le contrôle de qualité de tout ce qu'on distribue. Donc, si les pharmaciens sont à même de nous garantir la qualité des antirétroviraux, nous ne voyons pas pourquoi nous allons écarter les pharmaciens dans la lutte contre. Au contraire, nous avons besoin des pharmaciens parce que le médecin prescrit le médicament. Mais c'est lui qui conserve, qui distribue le médicament, c'est le pharmacien. Donc là, encore une fois, c'est plutôt une occasion que vous m'offrez pour demander à tous les pharmaciens du pays de venir, hein, de se mettre dans la lutte contre le VIH-Sida, parce que jusqu'à présent, ils se sont mis beaucoup plus à l'écart.
Alors, s'il y a des ONG qui ont besoin d'un financement, quelle est la procédure à suivre?
Bon, pour le moment, la procédure à suivre, ça dit, c'est d'abord être une ONG qui intervient dans la lutte contre le sida, hein, c'est de faire un projet, encore une fois, un projet qui puisse avoir une suite, hein, qui nous montre qu'à à la suite du financement du projet, il y aura des actions qui vont continuer. C'est un problème de pérennisation. Ça, c'est le point faible parmi qu'on rencontre avec les projets qui nous sont présentés. Donc, si l'ONG a ce projet-là, il n'a qu'à le soumettre. Hein, bon, nous verrons où se trouve le financement pour pouvoir le lui accorder.
Une autre question de Guillaume, pourquoi les ARV ne sont pas disponibles dans les pharmacies?
Nous l'avons dit, parce que, comme je disais, les ARV, ce n'est pas n'importe quel médicament. Hein, et comme lui-même a évoqué le problème de résistance, est-ce que toutes les pharmacies que nous avons dans notre pays réunissent les conditions d'être une pharmacie? Parce qu'une pharmacie, ce n'est pas un comptoir d'arachide. Une pharmacie, il y a toutes les normes qui doivent être respectées en matière de conservation, hein, jusqu'à ce que le médicament soit livré au patient. Alors, si on ne respecte pas ces normes, ça veut dire qu'on peut distribuer soit des faux médicaments, ça veut dire vide de produits actifs, soit on peut donner des médicaments qui sont devenus toxiques, hein, et ça, je ne crois pas que l'État est prêt à prendre une telle responsabilité.
Professeur Olivier Capen, le coordonnateur national du PNMLS, je vous remercie.
Je vous en prie.